L'inégalité patrimoniale extrême, condition de la civilisation dans une société pauvre. Il est intéressant de noter que les romanciers du XIXe siècle ne se contentent pas de décrire précisément la hiérarchie des patrimoines et des revenus de leur temps. Ils donnent souvent une vision très concrète et charnelle des modes de vie, des réalités quotidiennes qu'autorisent les différents niveaux de revenus. Au passage, on voit parfois poindre une certaine justification de l'inégalité patrimoniale extrême de l'époque, dans le sens où l'on sent, entre les lignes, qu'elle seule permet l'existence d'un mince groupe social qui peut se préoccuper d'autre chose que de sa subsistance. Elle est presque une condition de la civilisation. En particulier, Jane Austen évoque avec minutie le fonctionnement de la vie à cette époque, les ressources qu'il faut dépenser pour se nourrir, se meubler, s'habiller, se déplacer. Or, le fait est qu'en l'absence de toute technologie moderne, tout coûte très cher et demande du temps, et surtout du personnel. Il en faut pour préparer et rassembler la nourriture, qui ne peut être conservée aisément. Pour se vêtir, la moindre tenue peut valoir plusieurs mois de revenus moyens, voire plusieurs années. Et bien sûr, pour les déplacements. Il faut pour cela des chevaux, des équipages qui demandent eux-mêmes du personnel pour s'en occuper, de la nourriture pour les bêtes, et ainsi de suite. Le lecteur se trouve placé dans la situation de constater que l'on vit objectivement très mal si l'on dispose de seulement 3 ou 5 fois le revenu moyen, dans le sens où l'on doit passer le plus clair de son temps à se préoccuper de son fonctionnement quotidien, et si l'on souhaite pouvoir s'offrir des livres, ou bien des instruments de musique, ou encore des bijoux ou des robes de bal, alors il est tout à fait indispensable d'avoir au moins 20 ou 30 fois le revenu moyen de l'époque. Nous avons déjà noté dans la première partie à quel point il est difficile et simpliste de comparer les pouvoirs d'achat sur très longue période, tant la structure des modes de vie et des prises en vigueur a radicalement changé de façon multidimensionnelle. Il est donc impossible de résumer ces évolutions par un indicateur unique. On peut toutefois rappeler que d'après les indices officiels, le pouvoir d'achat du revenu moyen par habitant en vigueur au Royaume-Uni ou en France, autour de 1800, était environ 10 fois plus faible que ce qu'il est en 2010. Autrement dit, avec 20 ou 30 fois le revenu moyen de 1800, on ne vit sans doute pas mieux qu'avec 2 ou 3 fois le revenu moyen du monde d'aujourd'hui. Avec 5 ou 10 fois le revenu moyen de 1800, on est dans une situation intermédiaire entre le salaire minimum et le salaire moyen du monde d'aujourd'hui. Il n'en reste pas moins que les héros balzaciens et austiniens utilisent sans gêne les services de dizaines de domestiques, dont on ne connaît généralement pas même le nom. Les romanciers en viennent parfois à se moquer des prétentions et des besoins excessifs de leurs personnages, comme quand Marianne, qui se voit déjà former un couple élégant avec Will of Bee, explique en rougissant qu'il est, d'après ses calculs, difficile de vivre avec moins de 2000 livres par an, plus de 60 fois le revenu moyen de l'époque. Je suis sûr de ne rien demander d'excessif. Des domestiques en nombre suffisant, une voiture, 2 peut-être, et des chevaux pour la chasse. Il faut bien cette somme pour couvrir les frais. Elinor ne peut s'empêcher de lui signaler qu'elle exagère. De même, Vautrin lui-même explique qu'il faut un revenu de 25 000 francs, plus de 50 fois le revenu moyen, pour vivre avec un minimum de dignité. Il insiste notamment, avec moult détails, sur les coûts des vêtements, des domestiques et des déplacements. Personne ne lui dit qu'il exagère, mais Vautrin est tellement cynique que c'est une évidence pour tous les lecteurs. On retrouve le même type de décompte décomplexé, avec les mêmes ordres de grandeur sur la notion d'aisance, dans les récits de voyage d'Arthur Young. Quels que soient les excès de leurs personnages, les romanciers du XIXe siècle nous décrivent un monde où l'inégalité est d'une certaine façon nécessaire. S'il n'existait pas une minorité suffisamment dotée en patrimoine, personne ne pourrait se préoccuper d'autre chose que de survivre. Cette vision de l'inégalité a au moins le mérite de ne pas se décrire comme méritocratique. On choisit d'une certaine façon une minorité pour vivre au nom de tous les autres. Mais personne ne cherche à prétendre que cette minorité est plus méritante ou plus vertueuse que le reste de la population. Dans cet univers, il est d'ailleurs parfaitement évident que seule la possession d'un patrimoine permet d'atteindre un niveau d'aisance suffisant pour vivre avec dignité. Le fait de détenir un diplôme ou une qualification peut sans doute permettre de produire et donc de gagner 5 ou 10 fois plus que la moyenne, mais guère davantage. La société méritocratique moderne, notamment en Amérique, est beaucoup plus dure pour les perdants, car elle entend asseoir leur domination sur la justice, la vertu et le mérite, et en l'occurrence sur l'insuffisance de leur productivité. L'extrémisme méritocratique dans les sociétés riches. Il est d'ailleurs intéressant de noter que les croyances méritocratiques les plus vives sont souvent mises en avant pour justifier de très fortes inégalités salariales, d'autant plus fortes qu'elles apparaissent plus justifiées que les inégalités découlant de l'héritage. Depuis Napoléon jusqu'à la Première Guerre mondiale, on trouve en France un petit nombre de très hauts fonctionnaires extrêmement bien payés, allant parfois jusqu'à 50 ou 100 fois le revenu moyen de l'époque, à commencer par les ministres eux-mêmes, et cela est toujours justifié, notamment par l'empereur lui-même, issu de la petite noblesse corse, par l'idée selon laquelle les plus capables et les plus méritants devaient pouvoir, par leur traitement et leur travail, vivre avec la même dignité et la même élégance que les plus fortunés. Une réponse à Vautrin par le haut, en quelque sorte. Comme le note Adolphe Thiers en 1831 à la tribune de la Chambre des députés, les préfets doivent pouvoir tenir un rang égal à celui des habitants notables des départements où ils habitent. Cette question de l'échelle des salaires de la fonction publique cristallise à l'époque d'innombrables conflits politiques. Les révolutionnaires avaient tenté de mettre en place en 1792 une grille vertueuse et resserrée allant de 1 à 8, qui sera finalement mise en place en 1948 et très vite contournée par des primes opaques pour les plus hauts fonctionnaires, toujours en vigueur. Napoléon crée un petit nombre de très hauts traitements, tellement peu nombreux que Thiers, en 1831, ne voit guère l'intérêt de les réduire. Avec 3 millions de plus ou de moins donnés ou retirés aux préfets, aux généraux, aux magistrats, aux ambassadeurs, nous avons le luxe de l'Empire ou la simplicité américaine, ajoute-t-il dans le même discours. Le fait que les hauts fonctionnaires américains de l'époque sont payés beaucoup plus modestement qu'en France est également noté par Tocqueville, qui y voit l'un des signes infaillibles de l'esprit démocratique régnant en Amérique. Malgré moult péripéties, cette poignée de très hauts traitements a perduré en France jusqu'au premier conflit mondial, donc jusqu'à la chute des rentiers. En 1881, Paul Leroy Beaulieu explique que l'État, à force de ne relever que les petits traitements, a été beaucoup trop loin. Il prend avec vigueur la défense des hauts fonctionnaires de son temps, qui pour la plupart ne perçoivent guère plus de 15 000 ou 20 000 francs par an, chiffres qui paraissent énormes aux vulgaires, mais qui en réalité ne permettent pas de vivre avec élégance et de constituer une épargne de quelque importance. Le plus inquiétant peut-être est que l'on retrouve ce même type d'argumentation dans les sociétés les plus riches, où l'argument austinien du besoin et de la dignité est pourtant plus difficile à entendre. Dans les États-Unis des années 2000-2010, on entend souvent des justifications de cet ordre pour les rémunérations stratosphériques des supercadres, parfois 50 ou 100 fois le revenu moyen, voire davantage. On insiste sur le fait que sans de telles rémunérations, seuls les héritiers pourraient atteindre l'aisance véritable, ce qui serait injuste. À tout prendre, les revenus de plusieurs millions ou dizaines de millions d'euros donnés aux supercadres iraient donc dans le sens d'une plus grande justice sociale. On quitte alors une logique du besoin pour une logique de la démesure et de la consommation relative et ostentatoire. On voit là comment les conditions d'une inégalité plus forte et plus violente que celle du passé peuvent graduellement se mettre en place. On peut tout à fait se retrouver à conjuguer à l'avenir les travers des deux mondes, avec d'un côté le retour des très fortes inégalités de capital hérité, et d'autre part, des inégalités salariales exacerbées et justifiées par des considérations en termes de mérite et de productivité, dont nous avons vu que le fondement factuel était pourtant très maigre. L'extrémisme méritocratique peut ainsi conduire à une course-poursuite entre les supercadres et les rentiers, au détriment de tous ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre. Il faut également souligner que l'importance des croyances méritocratiques dans la justification des inégalités de la société moderne ne concerne pas seulement le sommet de la hiérarchie, mais également les disparités opposant les classes populaires et les classes moyennes. À la fin des années 1980, Michel Lamont réalise plusieurs centaines d'entretiens approfondis avec des représentants des classes moyennes supérieures aux États-Unis et en France, aussi bien dans les grandes métropoles, New York, Paris, que dans des villes moyennes, Indianapolis, Clermont-Ferrand, afin de les interroger sur leur trajectoire et sur la façon dont ils se représentent leur identité sociale, leur place dans la société et sur ce qui les différencie des autres groupes et des catégories populaires. L'une des principales conclusions est que dans les deux pays, ces élites éduquées insistent avant tout sur leurs mérites et leurs qualités morales personnelles, qu'elles formulent notamment en utilisant les termes de rigueur, patience, travail, effort, et ainsi de suite, mais aussi tolérance, gentillesse, etc. Les héros et héroïnes d'Austin et de Balzac n'auraient jamais jugé utile de décrire ainsi leurs qualités personnelles par comparaison au caractère de leurs domestiques, qui, il est vrai, ne sont pas évoqués du tout. La société des petits rentiers. Revenons au monde d'aujourd'hui et plus précisément à la France des années 2010. D'après nos estimations, l'héritage va représenter pour les générations nées à partir des années 1970-1980 près du quart des ressources totales, issues de l'héritage et du travail, dont elles vont disposer au cours de leur vie. En termes de masse globale en jeu, l'héritage a donc déjà pratiquement retrouvé l'importance qui était la sienne pour les générations du 19e siècle. Voir graphique 11.9. Encore faut-il préciser qu'il s'agit des prévisions correspondant au scénario central. Si les conditions du scénario alternatif se trouvent réunies, baisse de la croissance, hausse du rendement net du capital, alors l'héritage pourrait représenter plus du tiers, voire près des 4/10 des ressources pour les générations du 21e siècle. Mais le fait que l'héritage ait retrouvé le même niveau qu'autrefois en termes de masse globale ne signifie pas qu'il joue le même rôle social qu'auparavant. Ainsi que nous l'avons déjà noté, la très forte déconcentration de la propriété, la part du centile supérieur a été pratiquement divisée par 3 en un siècle, passant d'environ 60% dans les années 2010 à guère plus de 20% au début des années 2010, et l'émergence d'une classe moyenne patrimoniale implique qu'il existe aujourd'hui beaucoup moins de très gros héritages qu'au XIXe siècle ou à la Belle Époque. Concrètement, les dots de 500 000 francs dont le père Goriot et César Birotteau veulent couvrir leur fille, produisant ainsi une rente annuelle de 25 000 francs, environ 50 fois le revenu moyen par habitant de 500 francs en vigueur à leur époque, auraient pour équivalent dans le monde d'aujourd'hui un héritage d'environ 30 millions d'euros, produisant des intérêts, dividendes et loyers de l'ordre de 1,5 million d'euros annuels, soit 50 fois le revenu moyen par habitant d'environ 30 000 euros. Il existe de tels héritages. Il en existe même de plus considérables encore, mais ils sont nettement moins nombreux qu'au XIXe siècle, alors même que la masse globale des patrimoines et de l'héritage a pratiquement retrouvé le niveau d'autrefois. D'ailleurs, personne aujourd'hui ne mettrait en scène à chaque coin de rue des patrimoines de 30 millions d'euros à la façon de Balzac, de Jane Austen ou de Henry James. Ce ne sont pas seulement les références monétaires explicites qui ont disparu de la littérature après que l'inflation a brouillé tous les repères anciens. Les rentiers eux-mêmes en sont sortis et avec leur départ, c'est toute la représentation sociale de l'inégalité qui a été renouvelée. Dans la littérature et la fiction contemporaine, les inégalités entre groupes sociaux apparaissent presque exclusivement sous la forme des disparités face au travail, au salaire, aux qualifications. Une société structurée par la hiérarchie des patrimoines a été remplacée par une structuration presque entièrement fondée sur la hiérarchie du travail et du capital humain. Il est frappant de constater par exemple que de nombreuses séries américaines des années 2000-2010 mettent en scène des héros et des héroïnes bardés de diplômes et de qualifications hyper pointues. Pour soigner des maladies graves, Dr. House, résoudre des énigmes policières, Bones, et même pour présider les États-Unis, West Wing, mieux vaut avoir quelques doctorats en poche, voire un prix Nobel. Il n'est pas interdit de voir dans nombre de ces séries un hymne à une inégalité juste, fondée sur le mérite, le diplôme et l'utilité sociale des élites. On notera toutefois que des créations plus récentes mettent parfois en scène une inégalité plus inquiétante et plus nettement patrimoniale. Dans The Mages apparaissent d'horribles grands patrons qui ont volé des centaines de millions d'euros à leurs salariés et dont les épouses, encore plus égoïstes qu'eux-mêmes, entendent bien divorcer tout en conservant le pactole, piscine comprise. Dans la saison 3, inspirée de l'affaire Madoff, on voit les enfants de l'escroc financier tout faire pour garder le contrôle des actifs de leur père, dissimulés en Antigua, dans les Caraïbes, et protéger ainsi leur train de vie futur. Dans Dirty Sexy Money, on voit même de jeunes héritiers décadents, peu doté en mérite et en vertu, vivre sans vergogne du patrimoine familial. Mais cela reste exceptionnel, et surtout le fait de vivre d'un patrimoine accumulé dans le passé est presque toujours représenté comme quelque chose de négatif, voire d'infamant, alors que cela se passe de façon tout à fait naturelle chez Austin ou Balzac, pour peu qu'il existe entre les personnages un minimum de sentiments vrais. Cette grande transformation des représentations collectives de l'inégalité est en partie justifiée, mais elle se fonde néanmoins sur plusieurs malentendus. Tout d'abord, s'il est bien évident que le diplôme joue un rôle plus important aujourd'hui qu'au XVIIIe siècle, dans un monde où tout le monde est diplômé et qualifié, il est peu recommandé de rester à la traîne. Chacun a intérêt à faire un minimum d'efforts pour acquérir une qualification, y compris parmi ceux qui héritent d'un capital immobilier ou financier important, d'autant plus que l'héritage arrive souvent un peu trop tard au goût des héritiers. Cela n'implique pas nécessairement que la société soit devenue plus méritocratique. En particulier, cela n'implique pas que la part du revenu national allant au travail ait véritablement augmenté. Nous avons vu qu'il n'en est presque rien. Et évidemment, cela n'implique pas que chacun ait accès aux mêmes opportunités pour atteindre les différents niveaux de qualification. Dans une large mesure, les inégalités de formation se sont simplement translatées vers le haut, et rien n'indique que la mobilité intergénérationnelle en matière éducative ait réellement progressé. Il n'en reste pas moins que la transmission d'un capital humain est toujours moins automatique et mécanique que celle d'un capital immobilier et financier. L'héritier doit faire preuve d'un minimum d'effort et de volonté. D'où une foi très largement répandue et en partie justifiée dans l'idée que la fin de l'héritage aurait permis l'émergence d'une société un peu plus juste. Le principal malentendu est à mon sens le suivant. D'une part, la fin de l'héritage n'a pas eu lieu. La répartition du capital hérité a changé, ce qui est différent. Dans la France de ce début de XXIe siècle, il existe certes moins de très gros héritages. Les héritages de 30 millions d'euros ou même de 10 millions ou de 5 millions d'euros sont moins nombreux qu'au XIXe siècle. Mais compte tenu du fait que la masse globale des héritages est approximativement revenue à son point initial, cela signifie aussi qu'il existe beaucoup plus d'héritages moyens et moyens gros. Par exemple, autour de 200 000 euros, 500 000 euros, 1 million d'euros, 2 millions d'euros. Or, de tels héritages, tout en étant nettement insuffisants pour que l'on puisse se permettre d'abandonner toute perspective professionnelle et choisir de vivre de ses rentes, représentent tout de même des sommes considérables, surtout par comparaison à ce qu'une bonne partie de la population gagne au terme d'une vie de travail. Autrement dit, nous sommes passés d'une société avec un petit nombre de gros rentiers à une société avec un beaucoup plus grand nombre de rentiers moins gros, une société de petits rentiers, en quelque sorte. L'indicateur qui me semble le plus pertinent pour représenter cette évolution est décrit sur le graphique 11.11. Il s'agit du pourcentage de personnes qui, au sein de chaque génération, reçoivent en héritage, succession et donation, des sommes plus importantes que ce que les 50% des personnes les moins bien payées gagnent en revenus du travail au cours d'une vie. Cette somme évolue au fil des générations. Actuellement, le salaire moyen au sein de la moitié inférieure des salaires est de l'ordre de 15 000 euros par an, soit environ 750 000 euros pour 50 ans de carrière, retraite comprise. Il s'agit grosso modo de ce que rapporte une vie passée à proximité du salaire minimum. On constate qu'au XIXe siècle, environ 10% d'une génération héritait de montants supérieurs à cette somme. Ce pourcentage s'est écroulé à guère plus de 2% pour les générations nées dans les années 1910-1920 et 4-5% pour celles nées dans les années 1930-1950. D'après nos estimations, ce pourcentage est déjà remonté à environ 12% pour les générations nées dans les années 1970-1980 et pourrait atteindre ou dépasser 15% pour les générations nées dans les années 2010-2020. Autrement dit, près de 1/6 de chaque génération touchera en héritage davantage que ce que la moitié de la population gagne avec son travail tout au long d'une vie, et qui, pour une large part, est la même moitié que celle qui ne reçoit pratiquement aucun héritage. Bien sûr, cela n'empêchera pas le sixième en question d'acquérir des diplômes et de travailler, et sans doute de gagner davantage en général par son travail que la moitié la moins bien payée. mais il s'agit tout de même d'une forme d'inégalité assez perturbante et qui est en passe d'atteindre une ampleur inédite dans l'histoire. Elle est en outre plus difficile à représenter littérairement et à corriger politiquement, car il s'agit d'une inégalité ordinaire, opposant de larges segments de la population et non pas une élite et le reste de la société.